Radio Okapi.
Faire de la chambre basse du Parlement congolais le vrai temple du débat démocratique et du contrôle rigoureux de la gestion publique, c'est ce que promet Vital Kamerhe. Il a été élu hier comme candidat unique de l'Union Sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale. Plus de 20 000 habitants du quartier Sayo ont fui leur maison à la suite des attaques devenues récurrentes des ADF dans cette partie de la commune de Bungulu dans la ville de Beni au Nord Kivu. Dans ce journal, le reportage de Marc Marofimbo qui a visité ce quartier fantôme. Maître Dominique Kambala est l'invité de ce journal. Il a adressé une lettre au procureur général près la cour d'appel du Kasaï central pour dénoncer des discours incompatibles avec les valeurs démocratiques à quelques jours des élections des sénateurs ainsi que des vice-gouverneurs et des gouverneurs des provinces. Bonjour à tous. Vital Kamerhe se dit déterminé à faire de l'Assemblée nationale le vrai temple du débat démocratique et du contrôle rigoureux de la gestion publique. Élu avec 183 voix comme candidat unique de l'Union Sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale au cours des primaires organisées hier, Vital Kamerhe réaffirme sa conviction de se retrouver au bon endroit pour aider le pays à avancer. Le président de séance, Augustin Kabuya, invite à cet effet les trois candidats à préserver l'unité au sein de l'Union Sacrée après les résultats de ces primaires. Michel Kifindangoy.
Prenant la parole en premier pour expliquer le contexte de ces primaires, le secrétaire général de l'UDPS précise que l'Union Sacrée reste unie. Augustin Kabuya.
Nous étions d'accord pour que les jeux démocratiques puissent nous départager. Mais je regrette seulement que depuis que nous avions annoncé qu'il y aura des primaires, certains discours développés vont même dans le sens de remettre en cause la cohésion au sein de l'Union Sacrée. Nous sommes une seule famille politique. Ce n'est pas la fin du monde.
Après son élection comme candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe salue la culture démocratique au sein de l'Union Sacrée.
J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça a fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo.
Avec cette confirmation de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union Sacrée, il ne reste qu'à publier le calendrier des élections en vue d'installer d'ici la semaine prochaine le bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Et puis le coordonnateur de la Barza intercommunautaire du Tanganyika appelle les députés provinciaux à voter utile. Ludovic Kasongo lance cet appel à quelques jours de l'élection des gouverneurs des provinces. Il l'a dit ce mercredi à Radio Okapi. Selon lui, les députés provinciaux doivent voter en toute conscience et dans l'intérêt de la population. Ils ne doivent pas suivre le mot d'ordre de leurs autorités morales. Ludovic Kasongo est au micro de Paulin Munanga.
Nous souhaiterions que les députés que nous avions élus puissent faire un vote utile. Mais alors, vous allez apprendre ensemble avec moi qu'il y a des recommandations de Kinshasa. Les autorités morales commencent à donner des injonctions. Prenez tel, laissez tel, nous recommandons tel, nous voulons tel. C'est-à-dire, ces gens-là qui sont recommandés par leurs autorités morales, ils ne viennent pas servir les Tanganyika. Ils sont au service et ils seront au service. Ils ont toujours été au service de leurs autorités morales. C'est là que la population n'est pas d'accord avec ce système-là. Pourquoi la décentralisation? Pourquoi ils se sont précipités à décentraliser? Ça aurait été mieux qu'on laisse les choses dans le système de Mobutu, lui-même dénommé le gouverneur, plutôt que les grands électeurs puissent voter. Puisque quand ils votent, ils doivent avoir la conscience normale et tranquille en tant que responsable que nous votons, c'est à la satisfaction de la population.
Au Nord Kivu, le quartier Sayo de la commune de Bungulu est devenu un quartier fantôme. Ce quartier situé à 10 km du centre-ville et a été abandonné depuis un mois par ses habitants et pour cause les multiples attaques des ADF. Quelques habitants rencontrés sur place plaident pour la sécurisation de ce quartier considéré comme l'un des plus populaires de Beni. C'est un reportage de Marc Marofimbo.
Le quartier Sayo de Beni est devenu fantôme.
Les rues et avenues sont désertes. Les commerces et une dizaine d'écoles primaires locales sont fermées depuis un mois. L'un des rares habitants rencontrés sur place plaide pour la restauration de la sécurité dans les milieux.
Yambo, maman.
Il faut nous aider. Nous voulons rentrer chez nous. C'est la première fois que notre quartier Sayo a été attaqué. On n'a aucun responsable pour nous aider ici.
Cet habitant avait fui l'insécurité en Ituri il y a quelques années. Installé à Sayo, il dit être désespéré par l'insécurité dans ce quartier de Beni.
J'étais en Dalia avec l'insécurité, je fuis à Ofaye, puis à Sayo où je suis déplacé. Connaître Alice est rebelle, car si on les laisse, comment nous allons vivre?
Avec au moins 20 000 habitants, le quartier Sayo est l'un des plus populaires de la ville de Beni. Il est entouré des champs d'où est ravitaillée la ville de Beni en denrées alimentaires. Cela fait un mois qu'il est devenu la cible des rebelles des EDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, un élève âgé de 3 ans enlevé lundi dernier par le chauffeur de sa famille a été retrouvé ce mercredi vers 3h du matin à Kiziba dans le territoire de Nyiragongo. C'est grâce à l'efficacité des services de sécurité qui ont également mis la main sur les kidnappeurs. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la résurgence d'une autre forme d'insécurité à Goma, celle d'un réseau de kidnappeurs financiers qui se réactive. Ces sources appellent les parents et toute la population à redoubler d'attention et de vigilance. Denise Lukeso.
L'enfant Azar Yangoy, 3 ans, élève en première année maternelle au complexe scolaire Un Jour Nouveau, a été retrouvé sain et sauf. C'est grâce à l'implication active des services de sécurité qui ont démantelé ces réseaux des ravisseurs. Selon les témoignages de la mère de l'enfant victime, ces réseaux qui opéraient à 7 personnes exigeaient déjà une rançon de 50 000 dollars américains pour libérer l'enfant qu'il détenait depuis 2 jours dans une maison vers Kiziba. Les voisins ayant suspecté les activités de ces jeunes et leur conversation au sujet d'une quelconque rançon ont alerté la police qui était en patrouille dans ces quartiers périphériques de Goma. C'est alors qu'elle a mis la main sur ces kidnappeurs avec comme cerveau moteur le chauffeur de l'enfant. Ils sont tous détenus actuellement au bureau de la police à Kahembi. La voiture volée a été retrouvée abandonnée dans le quartier Keshiro hier mardi matin. Les parents saluent le professionnalisme de la police. Pour rappel, l'enfant Azar Yangoy avait été enlevé par son propre chauffeur après l'avoir récupéré de l'école lundi vers 12h. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Insécurité grandissante aussi dans la ville de Kolwezi et ses environs dans la province du Lualaba. Des bandits armés font des incursions récurrentes dans les domiciles et sèment terreur et désolation au sein de la population. La coordination provinciale de la société civile qui dénonce cette situation en appelle à la responsabilité des autorités. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité affirme que des dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces hors-la-loi. Grâce à Mzati nous en parle depuis Kolwezi.
Les quartiers où l'insécurité bat son plein à Kolwezi sont des nouveaux lotissements, notamment RVA, Golf et Istem et Joli Site. Des cas de cambriolage nocturne, de meurtres et autres formes d'insécurité y sont signalés régulièrement. Ce qui pousse les jeunes à organiser des patrouilles eux-mêmes pour, disent-ils, sécuriser leur quartier, affirme la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Lualaba. D'après son président, cette situation est causée non seulement par des civils, mais aussi par des hommes en uniforme. Félix Etambo Lufungo la plaide pour le renforcement des forces de l'ordre.
Nous avons toujours demandé qu'on ait beaucoup plus d'effectifs et aussi manque de logistique, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la logistique, des moyens de déplacement pour pouvoir intervenir à temps. On aimerait que dans chaque quartier, qu'il y ait des jeeps en permanence, surtout dans les points chauds là.
Le ministre de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba, qui reconnaît cette situation, indique que des efforts sont fournis pour traquer ces malfrats afin d'assurer la quiétude de la population. D'où, Deoda Kapenda Wakapenda affirme qu'en l'espace d'un mois, au moins 60 présumés criminels ont été arrêtés et quelques armes et une quantité importante de chanvres récupérées. Parmi eux, des éléments en uniforme. Ils sont déférés devant la justice, précise-t-il. De Kolwezi, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Des fortes pluies se sont abattues cette nuit sur la ville d'Ouvira au sud de la province du Sud Kivu. Depuis quelques mois, la population locale vit dans un cataclysme qui ne dit pas son nom. Nous nous intéressons aujourd'hui à la situation au port public de Kalundu où le commissaire lacustre Mungazi Amani dit être mal placé pour décider de la suspension des activités de débarquement et d'embarquement dans ce port public. Une personne y est morte noyée dans les eaux du lac la semaine dernière, Fiston Goma.
La victime était un convoyeur de camion. Il était en train de nettoyer un camion dans le port avant l'embarquement des marchandises. Il voulait aller puiser l'eau, ne sachant pas qu'il se trouvait déjà à la fin du quai de manutention. Il avait dépassé la bordure du quai avant de se retrouver dans les eaux profondes du bassin du port de Kalundu, où il s'est noyé. Alerté sur cet incident, la RVF est intervenue en plaçant quelques flotteurs sur un côté du port pour la visibilité du quai. Sur place à notre arrivée, plus de 10 camions étaient en train d'embarquer des marchandises dans cette condition de risque. Le commissaire lacustre Mungazi Amani explique.
La situation des montées des eaux est générale. C'est tous les ports du secteur de mon ressort qui sont attaqués par les eaux. Mais on se débrouille pour ne pas arrêter les activités. Si ça continue, on va déclarer auprès des autorités compétentes. La décision de fermeture n'émane pas de ma compétence. Malgré la montée des niveaux d'eau, ils ont aussi opté le système de déchargement camion-bateau et bateau-camion.
Rappelons qu'il y a un mois, le projet de facilitation PFSI-RGEL avait annoncé avec pompe le démarrage des travaux de réhabilitation de ce deuxième port international de la RDC. Si rien n'est fait dans l'urgence, les précipitations pluviométriques actuelles risquent de porter un coup dur sur les activités à Kalundu, qui n'a pas de station météorologique et de routes d'accès. Douvira Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Toujours au sud Kivu, l'Office des routes fait face à plusieurs défis dans l'exécution des travaux des routes. C'est notamment l'insuffisance des moyens financiers et matériels, mais aussi l'abondance des pluies qui ne permettent pas le bon déroulement des travaux. La direction provinciale de l'Office des routes au sud Kivu demande le renouvellement des matériels et autres engins. Ceux utilisés actuellement ont plus de 15 ans. Ingénieur Alain Mugango, directeur provincial de l'Office des routes sud Kivu, est dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamejua Kabedi.
Actuellement, l'Office des routes dans la province du Sud Kivu exécute plusieurs travaux sur la RN2 Bukavu-Minova, où la route déjà est praticable jusqu'à Nyabibwe pour ouvrir le tronçon Bukavu-Minova-Goma. Sur la RN3 Miti-Bunyakiri, il y a des travaux qui sont en cours, des travaux de suppression de bourbiers. Nos équipes sont sur terrain. Concernant la RN5 Bukavu, Fizi, Lulimba. Nous devons d'abord signaler qu'il y a des travaux d'asphaltage par l'entreprise Sino Hydro et ces travaux consistent à asphalter les tronçons Bukavu-Kamanyola. Nous devons aussi signaler qu'actuellement il pleut abondamment dans la plaine et ça ralentit un peu l'exécution des travaux. L'Office des routes, c'est depuis 2009 qu'il a été doté du matériel. Là, nous sommes en train de recourir à la location du matériel pour travailler, mais la location nous coûte extrêmement cher et ce qui réduit aussi notre rendement sur le terrain. Nous avons vraiment besoin du bon matériel pour essayer d'ouvrir les routes.
Dans la province du Maniema, 30 tonnes de matériel aratoire pour améliorer la culture, c'est un don hier du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR aux 30 agri-multiplicateurs et 250 maraîchers. La remise de ces outils a été faite par le ministre provincial de l'Agriculture en présence du coordonnateur national de PADRIR, en reportage de Florence Kizalunga.
La population du Maniema, la majorité pratique l'agriculture. La vision du PADRIR est que le paysan puisse quitter la pauvreté, a dit le coordonnateur provincial de cette organisation, Alphonse Mata.
Les agri-multiplicateurs pourront être beaucoup plus efficaces s'ils ont le matériel végétal qu'il faut. C'est pourquoi nous leur avons appuyé en semences de base et aussi le matériel de travail qu'il faut pour être efficace. Et cela permettra à ce que ces agri-multiplicateurs puissent à leur tour mettre à la disposition des paysans des semences de qualité et cela leur permettra d'améliorer leur rendement et aussi de quitter la pauvreté. Mais nous évoluons aussi lentement vers les infrastructures, donc améliorer l'accessibilité des zones rurales, améliorer aussi l'accès à certaines infrastructures de base.
De leur côté, les bénéficiaires espèrent à l'amélioration de leurs conditions de travail. Gérard Suedi.
Aujourd'hui, nous venons d'acquérir ces matériels pour nous aider à accroître la production. Auparavant, on n'avait pas de matériel, on s'est débrouillé en recherchant un matériel après notre selon la possibilité. Mais nous venons d'acquérir ces matériels, ça nous aide à remonter et aussi à accroître la production.
Signalons que ces activités entrent dans le cadre de la continuité du plan de travail et budget annuel 2023. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Plusieurs quartiers de la capitale kényane, Nairobi, sont sous les eaux. L'Afrique de l'Est connaît un niveau inhabituel des précipitations en cette saison des pluies, intensifiée par l'effet du phénomène climatique El Niño. Au moins 32 personnes avaient péri et plus de 40 000 avaient été déplacées au 18 avril, selon l'agence humanitaire de l'ONU, OCHA. En Tanzanie, au moins 58 personnes ont été tuées dans des inondations et des accidents. Au Burundi, les autorités ont fait état de 96 000 déplacés interne en raison des pluies quasi incessantes depuis plusieurs mois.
L'invité.
Au Kasaï central, à quelques jours des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, la Société congolaise pour l'état de droit dénonce des discours incompatibles avec les valeurs démocratiques. Ces messages et déclarations circulent sur les réseaux sociaux et sont même relayés par certains médias. À travers une lettre adressée au procureur général près la cour d'appel du Kasaï central, Maître Dominique Kambala rappelle que ces messages, développés intentionnellement, risquent de créer ou compromettre la paix pour cette province post-conflit syrien. En effet, il en parle dans cet entretien avec François Kadima.
Maître Dominique Kambala, bonjour.
Radio Okapi, bonjour.
Qu'est-ce qui a motivé la saisine du procureur à quelques jours de l'élection sénatoriale et gouvernorale au Kasa central?
Effectivement, nous avons saisi l'office du procureur général près la cour d'appel du Kasaï central par un courrier dénonçant un certain nombre de comportements et des agissements qui sont incompatibles avec toutes les valeurs républicaines et démocratiques.
Avez-vous relevé quelques cas concrets pour lesquels les auteurs sont poursuivables?
Notre dénonciation n'est pas hasardeuse. Hélas, pour soubassement, quelques cas concrets que nous avons documentés. Nous avons transmis au procureur général des éléments probants, allant dans le sens que certains candidats sont qualifiés des personnes n'ayant pas étudié, des personnes qui ne détiennent pas de titres académiques voulus. Il y a aussi des discours et des propos qui frisent l'injure. Il y a des propos qui frisent la stigmatisation identitaire en ce que tel candidat ne serait pas originaire de la province. Il y a aussi des cas extrêmement graves qui taxeraient certains candidats d'être des marionnettes des groupes armés, des groupes rebelles et de l'opposition politique qui frisent à mettre en place un complot de déstabilisation de la province à partir de certains territoires comme Kazumba, Luiza et Dimbelenge. Ces propos sont extrêmement excessifs et dangereux. Il y a aussi des propos très graves qui touchent à la dignité des personnes humaines et que donc il y a un gros risque. Le risque, c'est de verser dans les cycles de violence. Je rappelle, la Société congolaise pour l'état de droit rappelle que la province du Kasaï central se trouve dans une période de post-conflit et que beaucoup d'efforts ont été déployés et conjugués pour promouvoir la culture du respect des droits humains et consolider la paix. Le Kasaï central n'a plus besoin de verser dans le sang, dans la violence qui a retardé toutes les opportunités de développement.
Quel risque y a si rien n'est fait?
Il y a risque de compromettre la paix chèrement acquise, le retour à la paix.
Alors, y a-t-il des recommandations pour différents candidats et acteurs impliqués dans le processus?
Comme recommandation, c'est que l'impunité est incompatible avec la paix. Il faut absolument que les détenteurs attitrés de la plénitude de l'action publique puissent mesurer la gravité de la situation et que très rapidement, très vite, qu'ils puissent investiguer de sorte que tous les auteurs présumés répondent de leur responsabilité pénale. Entre-temps, les candidats devraient se garder d'instrumentaliser la jeunesse, d'instrumentaliser les chaînes de radios, les médias. Ils devraient mener une campagne en toute probité, en tout sens de responsabilité, une campagne qui privilégie les valeurs démocratiques et les valeurs républicaines, se garder de pouvoir tenter les députés par des manœuvres de corruption tenir leur discours pour convaincre l'électorat, de sorte que les députés puissent avoir un choix judicieux à effectuer, qu'ils puissent privilégier leur conscience par rapport à la situation de pauvreté extrême dans laquelle se trouvent nos populations.
Maître Dominique Kambala, nous vous disons merci.